direct de Lubumbashi, le mercredi 28 octobre 2015, de 11h à 12h15, local.
Je m'appelle Robert.
Moi, c'est André de Moukmaï au Café Oriental.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga.
Venez nombreux, vous tous, acteurs politiques, sociétés civiles, étudiants, à cette grande émission au centre Aroupé, sur l'avenue Kinela Balanda, commune de Lubumbashi, prendre la parole dans cette édition spéciale pour les 70 ans des Nations Unies.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans la province.
Félicien, vous êtes à Kinshasa.
Josephine, vous êtes à Boston pour les États-Unis.
Et aussi notre ami Marc Ebamba de Kisangani.
Au menu, le bilan des activités des Nations Unies en RDC et d'autres sujets qui vous concernent. Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi, c'est le mercredi 28 octobre 2015, de 11h à 12h, car local, au centre Aroupé avec Pierrot et la Meji. Parole aux auditeurs, à vous la parole.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. Nous recevons à présent Madame Marie-Claire Moulangan, présidente de l'ONG ATRAC, Accès pour tous au traitement du cancer, avec elle nous allons parler de l'assistance que l'entourage peut apporter à une personne qui souffre d'un cancer, particulièrement l'assistance à apporter à une femme qui souffre d'un cancer du col de l'utérus ou d'un cancer du sein. Vous savez, dans bien des cas, faute de dépistage précoce, les victimes sont prises en charge en retard, alors que la maladie a déjà atteint un stade avancé. Et conséquence, la personne malade et ses proches ont du mal à vivre cette situation. C'est une souffrance énorme. On souffre du point de vue moral, psychologique et dans sa chair. Alors comment peut-on venir en aide, assister à une personne qui souffre de cette maladie, le cancer? Madame Marie-Claire Moulanga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'ONG ATRAC, Accès pour tous au traitement du cancer, et vous avez vous-même aussi souffert de cette maladie, du cancer du sein. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez pu constater que vous avez le cancer du sein? C'était juste au début de la maladie ou à un stade déjà très avancé?
Merci pour la question. C'était juste au début. Heureusement pour moi, j'avais lu dans un magazine. Moi aussi, je n'avais pas d'informations sur le cancer. Je n'avais jamais écouté quelqu'un parler d'un cancer, ni assisté à une personne qui souffrait d'un cancer. Mmh. Heureusement pour moi, étant couturière, j'avais commandé des magazines de mode à Femme Actuelle de Côte d'Ivoire, où il y a plusieurs rubriques. Et dans un des magazines, j'ai lu une rubrique de santé qui était intitulée « Ce qu'il faut savoir sur le cancer du sein ». Mmh. J'ai lu juste pour m'informer, pour ma connaissance, en tout cas sans avoir l'idée qu'un jour je pourrais être concernée par la maladie. Et c'est seulement quelques temps après que je me suis dit que je veux un peu appliquer ce que j'avais lu sur...
l'autopalpation.
Par l'autopalpation. Mmh. Donc, c'était expliqué comment on pouvait connaître les premiers signes. Et une nuit comme ça, où je n'avais pas sommeil, je me suis dit, bon, je vais palper mes seins. À ma grande surprise, quand j'ai palpé mes seins, j'ai vraiment senti une masse dans le sein. Dans le sein droit. Mmh. Alors, j'ai essayé le sein gauche, je n'ai pas senti la même chose. Je me suis dit, mais ce n'est pas vrai, c'est ce que j'avais lu dans ce magazine-là.
C'est quel type de masse? Une sorte de boule?
Une sorte de boule, une nodule, bien identifiée dans le sein, qui est vraiment différent de la glande mammaire. Mmh. Alors, j'ai tiqué cette nuit-là, j'étais vraiment perturbée. Je n'ai pas dormi, et le lendemain matin, j'ai repris le même magazine pour relire, et j'ai essayé de faire les exercices d'autopalpation tels que c'était expliqué dans le magazine. Mmh. Et évidemment, j'ai vraiment confirmé qu'il y avait vraiment une présence,
D'une boule
dans le sein.
Autrement identifié.
Voilà, non identifié. Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai
dit. Et le lendemain, vous êtes allé voir votre médecin?
Je ne suis pas allée juste le lendemain. Moi, je suis chrétienne, croyante. J'ai d'abord prié pour que la masse disparaisse. Mmh. Et au bout de 10 jours, la masse n'a pas disparu. Et c'est là que je suis partie voir le médecin.
Et il vous a passé la mammographie, vous avez passé les...
J'avais d'abord fait une échographie qui a identifié une présence d'un kyste, c'était comme ça que c'était écrit, c'était encore en tout cas au tout début. Mmh. Et le médecin a demandé qu'on pousse les investigations un peu plus loin pour en avoir le cœur net. Mmh. J'ai fait une poncture mammaire d'abord, qui a soupçonné une malignité, et puis On a demandé de faire la mammographie. J'ai fait la mammographie. Et puis, on a demandé encore de faire la biopsie. J'ai fait la biopsie qui, finalement, a conclu à un cancer du sein.
Et tout cela, ça vous a coûté combien?
En tout cas, beaucoup. Ça a coûté beaucoup parce que déjà l'échographie coûtait à peu près $30. La mammographie, à l'époque, ça coûtait $80. La biopsie, c'était plus de $100. Donc, les examens seulement allaient au-delà de $300.
Au-delà de $300.
OK.
Et lorsque le médecin vous a dit, madame, vous souffrez d'un cancer du sein, et comment vous avez reçu cette nouvelle?
En tout cas, j'étais bouleversée. J'étais perturbée parce que moi j'attendais toujours un miracle malgré pendant qu'on faisait les examens, je priais Dieu pour que ça ne soit pas un cancer. Mais quand on m'a dit que c'était un cancer, j'étais d'abord très traumatisée, très bouleversée, très perturbée. Ça m'avait beaucoup effrayée. Et puis bon, le médecin m'a fait comprendre que bon, c'était encore au début, que pour moi c'était pas encore tard, qu'il fallait qu'on fasse vite, on passe à l'ablation pour me permettre de commencer les traitements. Ce qui avait été fait.
Et vous avez annoncé à votre famille, votre entourage, la nouvelle?
Oui, j'ai annoncé. Je leur ai dit que je vais passer à l'ablation, donc on va me couper le sein et tout. Entre-temps, moi-même, je me suis encouragée. Je me suis forcée à accepter cette situation. J'ai vraiment, travaillé le moral pour affronter cette preuve-là de l'ablation. Et donc, j'étais prête. Je me suis assez préparée et j'étais prête à subir cette ablation-là.
Et l'ablation a eu lieu combien de temps après le diagnostic?
L'ablation a eu lieu, je crois, la conclusion du diagnostic, je crois c'était au mois de mai, et l'ablation a eu lieu au mois d'août.
De quelle année?
2013. Précisément le 15 août 2013.
Et comment est-ce que votre entourage, c'était une souffrance pour vous, et comment est-ce que vous avez été vraiment assisté par votre entourage?
En tout cas, de manière diverse. Et certaines personnes ont compati vraiment avec moi et m'ont encouragé. Et d'autres, par contre, me montraient vraiment que c'était fini pour moi, que pour un cancer, on ne vit pas, on ne survit pas. Donc, on me regardait avec un air triste, tout ça. Et ça, moi, ça me perturbait. Je n'aimais pas ceux-là qui me montraient que c'était fini pour moi. Je préférais plutôt ceux-là qui m'encourageaient à me dire, non, ce n'est pas fini, on peut guérir d'un cancer, tout. Non, j'ai préféré ceux-là. Et donc, ça fait que à d'autres personnes, je ne disais rien parce que je ne voulais pas connaître ce que la personne donc les impressions ou les attitudes de certaines personnes. J'avais peur des attitudes négatives, donc je ne disais pas à certaines personnes que je souffre d'un cancer, que je vais passer à une ablation.
Et votre mari, les enfants, l'entourage, les parents?
L'entourage direct, les parents. J'avais une amie que Dieu m'avait vraiment, Dieu m'avait fait grâce. Elle m'avait beaucoup encouragée, elle m'avait beaucoup soutenue. Elle appelait les pasteurs pour prier pour moi. Elle allait appeler des gens pour venir m'encourager. Et elle-même aussi ne cessait pas de me donner des paroles d'encouragement. Et le fils aussi était là. J'avais un ami aussi qui vraiment, vraiment m'a assistée. Et eux, ils m'ont vraiment accompagné jusqu'à l'opération. Bien. Et ça s'est bien passé.
Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes présidente d'une association dénommée Accès pour tous au traitement du cancer. Et qu'est-ce que vous faites dans votre structure?
Ce que nous faisons, dans un premier temps, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser, mener des campagnes d'éveil au milieu des femmes. Dans le public, parce que moi, je me suis dit que vivant dans cet univers plutôt de cancer, j'ai découvert que le problème majeur dans le problème de cancer, c'est d'abord le manque d'information. Alors, je me suis engagée à commencer à faire des campagnes de sensibilisation. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est aller dans les salons de coiffure, dans les marchés, dans les hôpitaux, là où les femmes attendent leur consultation gynécologique, et je leur parle du cancer, je leur attire l'attention sur l'existence du cancer, sur les dangers, pour que chacun ou chacune puisse savoir comment faire son autopalpation pour le cancer du sein et comment faire le dépistage pour le cancer du col de l'utérus.
Certains disent que le cancer apporte une souffrance énorme. Alors, est-ce que généralement les personnes qui souffrent du cancer sont bien entourées, bien est-ce que l'assistance leur apporte le soutien dont ils ont besoin ?
Malheureusement pas dans le camp du cancer. J'entends certaines personnes dire quand quelqu'un souffre d'un cancer, ça veut dire que soit c'est une sorcière, soit c'est une personne qui était méchante et qui est en train de payer pour sa méchanceté. Et généralement, on remarque
c'est ce que les gens racontent.
C'est ce que les gens racontent. Et là, je vous dis que moi-même, je suis vu un pasteur dire à la télé, mais comment, vous, c'est seulement des mauvaises maladies, des graves maladies qui doivent vous atteindre. Il faut bien vous regarder. Il faut bien faire votre examen de conscience. Et là, j'étais choquée. En tout cas, là, j'étais choquée. Parce que même dans la Bible, nous avons vu Job, celui qui était intègre, être frappé d'une grave maladie. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment une stigmatisation autour du cancer. Les gens pensent que c'est un mauvais sort. C'est
une punition.
C'est une punition, oui. Et oui, généralement, il y a des maris qui abandonnent leur femme quand le sein commence à être défectueux, ça commence à dégager, ça pourrit. Le mari renvoie sa femme. Il dit non, moi cette situation je peux pas supporter. Il renvoie la femme. Et des fois même la famille aussi abandonne la malade. Et donc c'est vraiment des situations réelles que nous sommes en train de vivre et qui vraiment nous font très 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 mal.
Comment assister une personne, une femme particulièrement souffrant d'un cancer? Appelez pour participer, n'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94 pour vous inscrire et nous allons vous rappeler pour participer à cette émission.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment assister une femme qui souffre d'un cancer? Nous avons une réaction, madame. C'est la réaction de Léon Boalankai. Il nous écrit depuis la ville de Goma. Il dit ceci: les jeunes filles peuvent-elles aussi développer les cancers du sein et des cols de l'utérus ou cela ne concerne que les femmes en âge avancé?
Même les jeunes filles aussi peuvent développer les cancers. Là, je vous dis que j'ai dans notre association une jeune fille de 28 ans qui venait à peine de se marier et qui a constaté une masse dans le sein et après les examens, c'était un cancer du sein. Elle n'a que 28 ans.
28 ans. Et c'était déjà à quel stade? C'était
là,
encore au début.
Là, heureusement pour elle, c'était encore au début. Et en ce moment aussi, il y a une qui est encore à l'hôpital, qu'on vient de faire, on vient de lui couper aussi le sein. Elle aussi, elle a 28 ans. Donc c'est pour dire que ça peut aussi atteindre une fille, une femme, une jeune femme.
Et quelle est la meilleure façon d'assister? Comment doit-on soutenir les personnes qui souffrent du cancer?
Vous savez, quand une personne ça c'est une grande épreuve, hein, c'est une épreuve très dure. Donc vous qui êtes autour de cette personne-là qui développe un cancer, vous devez avoir une attitude positive. De ne pas lui montrer que non, c'est fini pour toi. Hein, cette maladie-là, on ne peut pas guérir de ça. Ça démoralise, ça perturbe et ça traumatise la personne qui est malade.
Ça peut même précipiter sa mort.
Mais c'est mieux de l'encourager, de lui dire ce n'est pas fini, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il faut toujours garder l'espoir. Il y a un traitement pour le cancer. Et c'est le cancer même, le cancer du sein, et même le cancer auquel le médecin s'en sort mieux. Donc, il y a un traitement, il faut l'encourager, le soutenir et lui montrer beaucoup d'affection. Être là avec lui et lui dire que non, il y a encore de l'espoir. On peut encore vivre d'un cancer. Ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas une fatalité. Nous avons en ligne Madame Pacifique Kaboula, elle est à Kinshasa. Madame, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute. Oui, on vous écoute.
Je voulais juste demander à l'invité comment réapparaît la... Parce que j'ai toujours entendu que s'il y a le cancer du l'utérus mal soigné, le cancer réapparaît avec le temps. Et moi, je sais vraiment, il y a autrefois, vous aviez l'intervention, d'une dame qui était là sur le plateau. Elle a expliqué, mais je n'avais pas dit c'est qui. Moi, je vais savoir l'effet de col, quoi, du cancer de l'utérus. À part tout ce qu'on avait expliqué, est-ce qu'il y a d'autres, les règles abondantes et le port un peu bizarre? Est-ce qu'il y a d'autres signes? Parce que le cancer des seins, c'est palpable, oui. Mmh. Alors, de l'utérus, comment on fait le détecter?
Bon, Madame Pacifique, notre invitée n'est pas médecin. Hein. Ouais. Donc, je crois qu'elle n'est pas mieux placée.
Même oui, oui, elle intervient en tant que
victime
aussi. Hein.
D'accord, oui. Quand mais je peux expliquer. Elle peut quand même expliquer. Ouais.
Dans le cas oui. du cancer de l'utérus, le cancer de l'utérus est encore un cancer qui est très sournoise. Ça veut dire, dès que les lésions sont là, sont déjà dans le corps, il n'y a aucun signe apparent pendant qu'il y a déjà des lésions précancéreuses. Maintenant, quand il y aura des signes apparents, généralement, c'est déjà à un stade avancé. C'est pourquoi on encourage les femmes à se faire dépister. Aujourd'hui, il y a des ONG qui organisent des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus, parce qu'au stade de lésion, on peut encore guérir un cancer, on peut arrêter l'évolution de ces lésions-là qui ne vont pas se développer en cancer. Voyez-vous, mais il n'y a pas de signes. Quand c'est encore des lésions, il n'y a pas de signes. Dernièrement, nous avons fait une campagne de dépistage à la clinique Ngaliema, qui était gratuite. Et les sages-femmes se sont dit, nous aussi, on va en profiter, on va faire un dépistage. Et sur 4, il y en avait 2 qui avaient des lésions précancéreuses, mais qui eux-mêmes s'ignoraient, ils ne les savaient pas. Et là, c'était une grande chance pour eux, parce que c'est, pour elles plutôt, parce que c'était encore au début, c'était seulement à la phase de lésion. Et là, elles ont été prises en charge, on leur a donné des antibiotiques qui ont soigné des lésions. Et là, elles sont hors du danger parce que la maladie s'arrête. Ça ne va plus évoluer vers le cancer.
Mais aujourd'hui, revenons à notre thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de l'assistance à apporter à une femme qui souffre d'un cancer. Madame Marie-Claire Moulanga nous a dit tout à l'heure qu'il faut avoir gardé une attitude positive, faire comprendre à la personne qu'il y a encore de l'espoir, c'est pas encore fini, et puis lui témoigner beaucoup d'affection.
C'est ça.
Et quoi d'autre?
Et surtout, l'assistance, ce n'est pas seulement l'assistance morale, c'est aussi l'assistance médicale. Mmh. Mais le problème se pose à ce niveau-là. Parce que quelqu'un peut découvrir son cancer au début. Elle a fait son autopalpation. Elle a bien découvert qu'elle a un cancer. Elle s'est fait dépister et il y a le diagnostic qui a confirmé. Mais maintenant, le grand problème, c'est affronter maintenant le traitement. Mais là, il se pose le problème du coût du traitement.
Ça coûte, les traitements coûtent beaucoup d'argent.
Ça coûte les yeux de la tête, ça coûte énormément.
Déjà, les examens, vous avez dépensé autour de 300
dollars. Autour de 300 dollars. Et donc, la prise en charge médicale est énormément chère. Et c'est là aussi qu'il y a un problème. L'assistance ne se manifeste pas parce que déjà, il n'y a pas un programme national de prise en charge pour le cancer. Mmh. Et pour des familles démunies qui n'ont pas de moyens, c'est vraiment un problème stressant dans la famille parce que là, on assiste impuissant à la souffrance d'un proche parent sans pouvoir lui assister.
Parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent.
Parce qu'on n'a pas de moyens, parce qu'on n'a pas d'argent. Mmh. Moi, j'ai un cas comme ça dans notre association où la femme s'est présentée. Moi, je lui ai demandé, mais comment le sein est déjà à cette salle-là? Mais vous étiez où? Elle m'a dit, maman, quand j'ai fait les examens, la première ordonnance seulement que le médecin m'avait présentée m'avait ébranlée. Et quand je suis partie dans la famille pour présenter l'ordonnance, tout le monde s'est dit, mais nous allons trouver cet argent où?
C'était combien?
C'était la première ordonnance seulement pour les médicaments qu'elle devait acheter, c'était 1 200 $.
Wow.
Elle m'a tendu l'ordonnance et elle m'a montré. Elle m'a dit, dans ma famille, je ne pense pas que quelqu'un soit même capable de me donner 100 $. Et le temps que nous réunissions la somme, l'évolution était là, les seins étaient en train d'évoluer. Et quand je me suis représentée chez le médecin, il m'a dit qu'on ne pouvait plus faire l'ablation parce qu'à ce stade-là, c'était pas possible de faire l'ablation. Donc, on l'a accompagné tout simplement avec un traitement palliatif, un soin palliatif qu'on ne savait bien qu'on n'allait pas guérir. On ne lui disait pas. Moi, l'accompagner avec des mots d'encouragement. Moi, j'étais là, je lui disais, c'est pas fini. Si le médecin a dit, c'est fini, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mmh. Je l'ai accompagné jusqu'à ce que vraiment, j'ai montré dernièrement ici la photo du sein de cette femme-là. Et finalement, elle en est succombée. Donc, c'était un problème réel. Il y a à peine un mois.
Un mois.
Oui, mais elle a beaucoup, beaucoup souffert pendant plus de 5 ans, comme ça. Et elle a fini par succomber le mois passé.
Bien, on va accueillir deux autres auditeur. Jolie, vous êtes à Lubumbashi et Christian Bouya à Kananga. Jolie, bonjour.
Bonjour.
En vous écoutant.
Bon, oui, je voulais vous poser la question à madame concernant la campagne qu'on fait là à Kinshasa. Est-ce que la campagne va s'étendre aussi à Lubumbashi? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, concernant l'écoulement mammaire, je voulais un peu savoir si c'est en rapport avec le cancer du sein, si elle peut, même si elle n'est pas du domaine médical.
Oui, écoulement mammaire, pour, c'est, là vous parlez pour une femme qui allait ou pas? Jolie, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, quand vous parlez de l'écoulement mammaire, c'est pour une femme qui allait ou pas?
Non, pas encore.
Pas encore, hein. D'accord. Christian Bouy, merci. Christian Bouy, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi.
On vous écoute.
Je dis, je voudrais d'abord commencer par féliciter la dame qui est sur le plateau pour le courage avec lequel elle a eu à brosser vraiment succinctement son témoignage. En tout cas, il y a d'autres femmes qui ont cette maladie, non. Semble se taire pour ne pas le dire, soi-disant, ça devient le fait d'injures, d'insultes, ou soit. Mais la dame a quand même eu le courage de donner son témoignage sur le plan public. Je le félicite pour ça.
Mais
et pour un peu revenir au sujet aujourd'hui, je voudrais assez que madame, même si elle n'est pas une corps soignante ou soit médecin, j'aurais bien voulu assez qu'elle soit accompagnée d'un médecin spécialiste en la maladie, mais hélas. Qu'à cela ne tienne, je dis, je crois quand même que c'est une dame qui a de l'expérience, parce qu'elle-même a vécu le fait. Je voudrais assez qu'elle donne beaucoup de précisions sur les causes de la maladie du cancer, que ce soit de l'utérus ou alors du sein.
Mais Christian,
et
aujourd'hui,
encore, je voudrais,
Christian, aujourd'hui le thème c'est le soutien. Nous parlons de comment assister à une personne qui souffre. Donc c'est beaucoup plus par rapport à l'assistance, le soutien qu'on peut apporter à la personne. Cette question-là, on va la garder pour le médecin prochainement. Mais est-ce que vous avez une question par rapport à ces thèmes du jour?
Ok, merci beaucoup. Je dis Daniel Kachama. Oui. Je voudrais demander à la dame, comme on parle du soutien, bien sûr, si ici à Kananga, là où nous sommes, s'il y a là de précision sur l'endroit où on peut prendre n'est-ce pas, en charge des femmes qui souffrent du cancer. Merci beaucoup, Jody.
Bien. Madame Marie, est-ce qu'il existe des structures où on peut apporter un soutien à ces personnes?
Je n'en ai pas connaissance. En RDC, je n'en ai pas connaissance.
Déjà, il n'existe pas un programme.
Il n'existe pas un programme.
Donc,
de manière générale, les personnes même souffrant du cancer en province sont obligées de venir à Kinshasa. Parce que même les structures de prise en charge n'existent pas là-bas. Donc, toute personne qui a... Et puis, le traitement d'un cancer ne se donne pas n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quelle infirmière ou n'importe quel médecin qui peut donner un traitement de cancer. C'est vraiment un cancer... un traitement spécialisé, il faut être formé pour ça. Donc, je pense que la prise en charge à Kananga ou à Mbujimayi ou à Lubumbashi, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que c'est seulement à Kinshasa où il y a des structures de prise en charge du cancer.
Voilà, il y a un joli idée de
Lubumbashi. Mais je crois peut-être que, bon, peut-être qu'il y a des centres en province où on peut administrer des premiers soins, peut-être aussi des examens, je crois. Mais à ma connaissance, je ne pense pas, parce que même la mammographie ne se trouve qu'à Kinshasa et pas dans toutes les dans tous les hôpitaux aussi.
Mais Jolie s'est dit, est-ce que cette campagne de sensibilisation s'arrête à Kinshasa ou vous allez aussi descendre là-bas à Lubumbashi?
Malheureusement, cette campagne est à Kinshasa parce que nous n'avons pas encore de moyens d'organiser des campagnes à grande échelle. Les campagnes que l'ONG organise, c'est vraiment sans financement, hein, sans soutien. C'est tout simplement une vocation que j'ai reçue, une conviction de partager.
Mais vous avez déjà eu à circuler
et
dans les différentes provinces pour
mais
partager vos témoignages.
Pas encore, je le fais toujours encore au niveau de Kinshasa. Je vous ai dit que nous n'avons pas de moyens parce que c'est une campagne de cette envergure doit être plutôt organisée par le gouvernement. Je pense qu'il faut l'implication du gouvernement pour que cette campagne s'étende jusque dans les provinces partout en RDC.
Est-ce que l'écoulement mammaire est un signe d'un début de cancer, de ça?
C'est quel genre d'écoulement mammaire? Si c'est du sang, oui, ça peut être suspect, mais je ne confirme pas que c'est un cancer, mais c'est déjà un signe qui pousse à aller voir un médecin.
Un médecin.
Ah, voilà.
Bengi Roger nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous parlons de l'assistance à apporter à une personne qui souffre du cancer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Oui, premièrement, à l'instar de Christian de Kananga, je remercie beaucoup la dame qui est sur le plateau.
Merci.
De tout ce qu'elle a réuni comme courage parce qu'elle est son compte au bout du doigt. Mais pour rentrer au sujet, je voudrais d'abord savoir parce que L'invité avait commencé à expliquer petit à petit. J'étais en train de le suivre très bien. Est-ce qu'il y a une forte chance de la femme, disons, quand elle se fait dépister avant et détecte déjà cette maladie, est-ce qu'il y a, une forte chance qu'elle soit guérie parce qu'elle a parlé de la nation? Bon, moi, je suis juriste, je ne connais pas les termes, tu vois. Je l'attends que c'est une guérison aussi, hein, après l'opération. Est-ce que...
Oui, l'ablation, c'est-à-dire qu'on a enlevé, on a coupé le sang malade. Le sang qui était déjà affecté.
Elle sera guérie, il n'y aura pas l'approbation, bien sûr, de cette maladie-là. C'est la première question. La deuxième question, est-ce que la femme, si elle a, elle est atteinte aussi de cette maladie, pour l'assister, bien sûr, parce que les médicaments, j'ai un exemple de ma grand-mère aussi, elle souffre de cette maladie. Le docteur avait peur de l'annoncer à la famille pour dire que non, elle souffre de cancer du corps. C'est très grave. Maintenant, je suis à Lubumbashi, je suis allé en ville pour demander ce médicament. D'ailleurs, c'est une spécialité qui vient de faire. En fait, ça coûte, les 10 comprimés, si c'est un endoxant comme ça, ça coûte 28 000 francs. Est-ce que si dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, est-ce que, comment est-ce qu'on peut encore l'assister autrement?
D'accord. Si dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a assez de moyens pour aider, comment assister autrement? Merci, Bengi Roger. Lui, Selinga, vous êtes à Kinshasa. Hein? Bonjour.
Bonjour. Bonjour aujourd'hui. Bonjour, madame l'invitée.
Merci. Bonjour.
Courage pour le travail que vous êtes en train de faire.
Merci.
Madame, c'est pas tellement une question, mais je voudrais apporter... Je suis en train de rouler. Vous allez m'excuser de la qualité de, de la communication. Je voudrais un peu porter... Parce que Jody a parlé d'une assistance, vous n'êtes pas médecin. Mais dans l'assistance, il faut commencer même par le début. Vous avez parlé des dépistages, c'est très bon. Il faut sensibiliser les dames à faire le dépistage. Mais j'ai constaté quelque chose un peu qui me froisse, c'est-à-dire la manière dont se fait le dépistage. Ici, chez nous, il y a encore des petits problèmes. C'est-à-dire quoi? Toute boule qui sort au niveau des seins, la plupart, il y a des médecins avérés qui a besoin qu'ils fassent l'ablation pour qu'il ait l'argent. Je connais, si je vous parle en conséquence de moi-même, madame, mon épouse, sur place, elle a été déclarée. La boule, c'est le cancer, une boule mastinale, tout ça. J'ai dit, je ne suis pas. Parce que j'ai lu sur l'internet que sur 10 cas de boules dans le sein, 3%, ça paraît le cancer, mais la plupart des temps, c'est pas le cancer. Effectivement, ça m'a donné raison. Nous avons effectué un voyage pour l'Inde. On a fait tous les examens, on a dit non, ce n'est qu'un kyste. Ici, on voulait faire l'ablation. Alors, je voulais dire à madame, dans les soutiens, il faut quand même au début qu'on fasse comprendre, parce que nous n'avons pas encore de matériel suffisamment chez nous pour pouvoir dépister complètement. Que les dames arrivent. On attend et qu'on mette un peu de doute dans certains mammographies, échographies, toutes ces histoires qu'on fait. Alors, madame, c'est ça la contribution que je voulais apporter. Courage et vraiment, si vous pouvez créer une association pour aider les jeunes filles jusqu'à... Et même, madame, je veux vous dire une chose. Madame a voyagé avec ma jeune fille qui a eu une prévention,
oui.
Le vaccin.
Oui.
C'est un nouveau vaccin qui apparaît. Il y a aussi cette possibilité-là, mais chez nous, ce n'est pas encore arrivé.
Oui.
Je suis arrivé chez Père, on a dit non, ce vaccin n'est pas encore là, parce qu'on l'a piqué 6 mois après. Donc, il y a lieu de... Vraiment, si vous pouvez même penser à créer une association pour ça,
c'est déjà créé.
Oui, c'est déjà fait, là, déjà.
J'ai pris l'émission au milieu, alors vous m'excusez.
D'accord. Merci, monsieur Louis et Selinga, bonne journée. Je reviens à vous. Il y a Bengi de Lumbashi qui dit, après l'ablation, est-ce qu'il y a des risques de réapparition du cancer ou pas?
Justement, nous avons dit au début que le cancer, quand il est dépisté tôt, il y a des chances de guérison. Mais généralement, nous remarquons que on fait deux fois l'ablation pendant que le cancer avait déjà touché d'autres organes vitaux. Et là, la métastase. Donc, là, quand c'est déjà métastasé, oui. Alors, en ce moment, il y a très, très peu de chances de guérison. Là, même si on part en Inde ou aux États-Unis, jusque-là, la médecine n'est pas encore capable de soigner un cancer déjà métastasé.
Voilà. Et Ben, il nous dit qu'il a sa grand-mère aussi qui souffre du cancer du col de l'utérus. Il est allé acheter les médicaments, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Alors, d'ici, il n'y a personne dans la famille qui peut assister et apporter des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
C'est ça. Si vous voyez le nom de notre association Accès pour tous au traitement du cancer, parce que c'est ça le constat que nous avons fait. Ce constat amer, c'est ça qui nous a poussé à créer Accès pour tous au traitement du cancer. Parce que le soin, avoir accès aux soins ne doit pas être seulement facteur d'argent. Parce que ça, c'est une injustice. Et là, j'en profite pour crier à l'injustice. Je dis encore une fois, c'est aussi une violence faite à la femme. Parce que quand elle n'a pas de moyens, elle n'a pas accès au traitement. C'est pour cela que nous sommes en train aujourd'hui de nous battre dans le cadre de la TRAC pour la prise en charge des personnes souffrant de cancer. Parce que ce n'est pas normal. Nous remarquons même dans une entreprise, une femme qui travaille et qui a servi une entreprise pendant longtemps, mais dès qu'elle est malade, c'est quoi? C'est le cancer. L'entreprise lui dit non, mais le cancer coûte trop cher. On ne peut pas.
Et l'entreprise l'abandonne.
Il y a d'autres entreprises qui abandonnent et qui vous dit non, nous allons seulement t'assister avec un peu et toi tu vas te débrouiller. Et deux fois même, elle commence le traitement avec son argent, elle n'a pas de remboursement de son entreprise. Et là nous crions au scandale, nous disons c'est injuste, c'est injuste. Et ça aussi c'est une forme de violence faite à la femme. C'est pour cela nous nous battons pour cela, pour que toute femme qui souffre d'un cancer, on ne choisit pas de souffrir d'un cancer. Oui. Parce que c'est une injustice que de voir celle qui est juste à côté de vous qui a le VIH-SIDA, elle a une prise en charge bien, elle a son traitement, et vous à côté de celle-là qui souffrait d'un cancer, vous n'avez pas une prise en charge.
Et on dit souvent que la souffrance du cancer est plus que dépasse de loin.
Mais j'ai des images, je vais vous montrer. L'agressivité, la violence avec laquelle le cancer détruit le corps, ronge le corps, mais c'est sans pareil. Vraiment, il n'y a pas de pareil. Le cancer est très, très, très violent.
Oui.
Par sa capacité de morbidité.
Oui.
C'est très violent.
C'est très violent. Monsieur Louis Selinga, il dit que sa femme avait une boule au niveau du sein. Il l'a amené dans un hôpital. On a déclaré, conclu directement qu'il s'agissait d'un cancer. Et après, il a douté. Il est parti en Inde avec sa femme et on a découvert que c'était juste un kyste. On a opéré.
Je pense que ces médecins-là, c'était un aventurier. Parce que nous aussi, quand nous faisons nos campagnes de sensibilisation, nous ne disons pas que la présence de toute masse dans le sein veut dire un cancer. Mais nous disons aux femmes, mais c'est seulement le médecin qui peut le dire. Ce n'est pas vous qui allez dire, c'est une masse, mais je pense que ce n'est pas un cancer. Non. Mmh. Allez vous faire dépister. Faites les examens. Je vous ai donné toute la série d'examens qu'on m'a demandé ici. En dehors de l'échographie, j'ai fait la mammographie, j'ai fait la biopsie.
Madame, on demande votre numéro de téléphone. On va terminer, on n'a plus de temps. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés, qui voudraient continuer à discuter avec vous après. Le numéro de téléphone.
081 66 42 682 682 082 682 082 092 42 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 621 66 43 682.
Voilà, 081-66-43-682. Donc, c'est le numéro par lequel on peut vous joindre. Merci, madame Marie-Claire Moulanga.
Merci.
Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG ATRAC, Accès pour tous au traitement du cancer. Merci et bonne journée.
Merci à vous.